Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pont et nous allons passer un moment ensemble pour une nouvelle chronique auto. Contact. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la deux chevaux, communément appelée la deux deuches. On en a tous croisé une un jour, il faut dire qu'avec 41 ans de carrière, ça a pu laisser des traces dans nos mémoires. Dans ce domaine, elle se classe dans le peloton de tête, derrière la coccinelle, mais à égalité avec la Mini et la Lada Niva. Le secret de sa longévité, sans doute l'économie, la fiabilité et sa ligne, quelque peu intemporelle. Pour comprendre la jeunesse de la deux chevaux, il faut partir en Auvergne, chez les frères Michelin. En 1922, ils décident de s'impliquer dans l'amélioration de l'automobile. Pour ce faire, ils envoient donc un questionnaire à des milliers d'acheteurs potentiels dans toute la France. C'était un simple feuillet recto verso qu'il fallait renvoyer sous 8 jours. On y demandait le nombre de places souhaitées, la charge utile, le type de marchandises transportées, la vitesse et le prix de vente escompté. Et quand Michelin rachète Citroën en 1937, la voie est déjà toute tracée. Le but est de vendre le plus grand nombre de voitures et par la même occasion de pneumatiques. Pour cela, on va viser le monde rural à faible revenu. Pierre Boulanger, qui a été nommé à la tête de Citroën, définit un cahier des charges précis pour ce que sera le projet TPV. TPV pour toute petite voiture. 4 places, 50 kg de bagages, 2 chevaux fiscaux, 3 litres au 100, 60 km/h, une boîte 3 vitesses et surtout, ce qui est sans doute le plus connu, elle doit pouvoir traverser un champ avec un panier d'œufs sans en casser aucun. André Lefebvre dirige le bureau d'études et il a carte blanche. Les matériaux les plus divers, tels que le mica pour les vitres ou encore la toile cirée pour la capote, sont envisagés. Au final, 49 études vont aboutir à un modèle en tôle ondulée qui sera construit à 250 exemplaires. Mais on est le 1er septembre 1939. La guerre est imminente. Sur ordre du patron, presque tous les exemplaires vont être démontés et détruits. Quelques-uns seront cachés et disséminés un peu partout en France. Au sortir de la guerre, le projet repart de plus belle. Trois hommes vont se distinguer plus particulièrement dans ce projet. Léon Renault, qui n'a rien à voir avec la marque éponyme, va créer les suspensions. D'une conception totalement novatrice et d'une simplicité géniale, elle lui donne une tenue de route légendaire et son allure un peu cocasse. L'humoriste Polo en parle assez bien.
Nous voilà qu'on repart en deux chevaux. Moi j'ai acheté une deux chevaux parce que j'ai voulu me présenter au conseil municipal par chez nous. Bah tu sais que pour être élu maire ou conseiller, une deux chevaux c'est bien pratique. Parce qu'à la veille élection, tu traverses le bourg avec ta deux chevaux. Et bien ça te secoue tellement la goule que les gens ils disent tiens, il me dit bonjour aujourd'hui, je vais voter pour lui demain.
Le seul hic pour cette suspension, c'est qu'elle générait des ultrasons particulièrement pénibles pour les animaux, les chiens en particulier. Pour le style, c'est l'Italien Flaminio Bertoni qui va s'imposer. Il avait déjà dessiné la traction et c'est lui qui signera la Missis et la DS. Le style de la deux chevaux ne sacrifie en rien à la mode ou à des préoccupations marketing. Il est uniquement dicté par la fonction, ce qui le rend intemporel. Dernier protagoniste, Walter Becchia, un motoriste italien qui a fait ses armes chez Talbot en créant des moteurs pour la compétition. Pour la deux chevaux, il va s'inspirer du moteur de la moto BMW de Flaminio Bertoni. Dessiné par un Italien, motorisé par un Italien qui lui-même s'est inspiré d'un moteur allemand, il est difficile de dire que la deux chevaux est un produit 100% français. Elle est présentée au salon de 1948.
Avec l'automne, voici revenu le salon de l'automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère, avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
En revanche, la presse tire à boulets rouges, vexée de n'avoir eu aucune information sur le projet. Le public, lui, est plus favorable, mais un peu refroidi par le prix qui n'est qu'indicatif, les délais incertains et la ligne un peu déconcertante pour l'époque. Le modèle définitif est présenté en 1949. Une seule version, une seule couleur, et le dépliant qui l'accompagne est à l'avenant. Il est au format carte postale, avec 4 pages et 4 photos monochromes. Il n'y avait pas de jauge à essence, il fallait plonger une tige dans le réservoir. Pas de serrure non plus. C'était un antivol de vélo et on bloquait le volant à la barre du siège. Dans le même souci d'économie, c'est le compteur de vitesse qui entraînait les essuie-glaces. À l'arrêt, il fallait les actionner à la main et à grande vitesse, il n'évacuait plus l'eau. Il n'y avait pas de couvercle de malle arrière, c'est la capote qui couvrait l'arrière jusqu'au pare-choc. Seule concession à la modernité, elle est équipée des tout nouveaux pneus Michelin à carcasse radiale et d'une boîte 4 vitesses. Cette dernière était surnommée 3e surmultipliée pour respecter le cahier des charges du patron. Le manque de matières premières fait que la production débute lentement, avec 4 exemplaires par jour. De fait, les délais de livraison vont monter jusqu'à 7 ans. Sauf pour les curés, les médecins et les bons clients de la marque. Avec la demande, les modèles d'occasion se vendaient plus cher que les neuves. Tout au long de sa carrière, le modèle va évoluer. En 1951 apparaît la version utilitaire avec une charge utile de 250 kg et la serrure de porte fait son apparition. En 1954, une innovation, l'embrayage centrifuge qui permet de s'arrêter et redémarrer sans toucher à la pédale d'embrayage. En 1956, le compteur est éclairé et une vitre remplace le hublot arrière. Un an plus tard, elle reçoit un couvercle de malle en tôle et la capote est plastifiée. Parallèlement, le moteur gagnera en puissance au fil des années. Dans les années 70, les ventes déclinent. Citroën va remanier la gamme et encore augmenter la puissance. De nouveaux coloris apparaissent, du jaune, du rouge, du vert et du bleu. Les phares deviennent rectangulaires et on pouvait même avoir un transistor en option. Transistor qui, vu le bruit de la mécanique, ne servait qu'à l'arrêt. Les publicités fleurissent à la télé. Voici un spot de 1969.
Sans route, sans risque, sans fatigue, dans la boue, dans le sable, dans l'eau, à travers gué, à travers champs. Elle passe partout, elle vous conduit partout, la 2 chevaux Citroën.
La 2 chevaux va passer du statut de voiture des familles modestes à celui de seconde voiture. Son faible coût séduit également les jeunes. Citroën s'engouffre dans la brèche et va cibler la jeunesse en organisant des raids. Ce sera Paris-Kaboul en 70, Paris-Persépolis en 71 et Abidjan-Tunis en 73. En 1972 apparaissent aussi les premières épreuves de 2 chevaux cross. Elle accompagnera également le mouvement hippie dans les années 60. On écoute les Beatles en 65. En 1976, Citroën lance les séries spéciales. Il y aura la Spot, orange et blanche, la 007, la Cocorico et surtout la Charleston qui aura la bonne idée de reprendre les phares ronds. Dans les années 80, c'est le déclin dû notamment aux normes anti-pollution et aux normes de sécurité. Il faut dire que le manque de protection des passagers en cas de choc était sûrement son plus gros point faible. À ce sujet, elle a participé à l'un des plus célèbres accidents du cinéma. Je vous laisse écouter.
Tenez, madame Chenier, donnez-moi un petit coup de main.
Attendez, donnez-moi ça, là.
Attention au casse-croûte.
Alors, comme tous les étés, vous bloquez votre courrier à Carcassonne.
Ah non, non, cette année pour les vacances, je fais toute l'Italie.
Ah bon?
J'espère qu'il sera meilleur qu'ici. Regardez, c'est pourri dedans.
Allez.
Merci, madame Chenier.
Mon voyage, lui tient en place.
Au revoir, je vais revenir tout bronzé. Mais je ne suis pas pressé, moi.
Alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, ouais. Voilà, c'est là.
Mais, oui. Mais je vous en
prie. Alors, voici ma carte.
Hein?
Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà.
La production se termine en France en 1988 et officiellement le 27 juillet 1990 à 16h30 au Portugal. Officieusement, 5 modèles seront encore produits la semaine suivante. Ainsi se termine le fabuleux destin de celle qui aura su séduire les couches populaires, les administrations, les jeunes, et même paradoxalement aujourd'hui les classes plutôt aisées, puisqu'il faut débourser environ 15 000 euros pour un modèle neuf, refabriqué à partir d'un numéro de série existant. C'était la chronique de l'automobile. Dans un futur proche, on s'intéressera à celle qui va devenir sa concurrente, la Renault 4L. Bonne journée à tous sur Radio Pont.